Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous. C'est le moment de votre émission préférée, l'invité du 12-13. Un moment privilégié d'échange et de découverte des acteurs locaux, ceux qui font vivre votre territoire au quotidien. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale. Je suis très content d'accueillir aujourd'hui Lydie Arix, qui est une artiste avec un grand A. On détaillera l'alphabet plus tard, mais on va commencer par la lettre A, qui est accompagnée par Patrice Biancone. Vous allez commencer à le connaître.
Bonjour.
Il est venu il n'y a pas longtemps.
Absolument.
Bonjour tous deux.
Bonjour, bonjour à tous.
Voilà, Patrice, je le rappelle, il est conseiller municipal au Segor, il s'occupe de la culture et il est bien occupé en ce moment parce qu'il paraît qu'il se passe quelque chose en ce moment, n'est-ce pas ?
Absolument, à partir de demain, et je vous invite tous, bien entendu, si vous vivez dans la région, c'est le début du salon du livre. Donc la 27e édition, ça fait 27 ans que ce salon est installé dans la ville et donc nous perpétuons, n'est-ce pas, l'œuvre qui a été entreprise il y a 27 ans.
Tout à fait. Alors on va passer une petite heure ensemble, on va découvrir nos invités et l'univers de Lydie. Hein. D'abord on va écouter le flash info national et international et on se retrouve tout de suite après. Nous voilà de retour avec nos invités. Donc on va essayer de découvrir qui est Lydie Arix parce qu'il y a pas mal de choses à dire. On a la chance d'avoir Patrice aussi qui la connaît, on va dire, très bien. Je crois qu'on peut se permettre de le dire. Donc c'est pratique. On va pouvoir explorer un petit peu l'univers d'Eddie. On va commencer évidemment par une petite bio, une trajectoire relativement courte. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où vous êtes arrivé au jour et ce micro-là, mais ça, en peu de temps. C'est vache comme question, je sais.
Ah oui.
C'est très vache.
C'est un itinéraire très long,
oui.
mais on va faire court.
Oui, c'est un itinéraire de 45 ans de travail, mais en fait, d'être tombé dedans, dans cette destinée d'être dans la création et de renaître de cette espèce de premier geste continuellement. C'est-à-dire, à chaque instant, c'est le début, en fait. Mmh. C'est le commencement. Donc, il n'y a pas vraiment de choix. C'est comme ça, en fait. On est fait pour être quelque chose. Mmh. Vous et Patrice, tout le monde a une forme de prédestination à être, à avoir un talent particulier pour être ce qu'il est, je crois. Mmh. Le tout, c'est de suivre ses instincts et d'y aller.
Oui. Et de savoir le reconnaître à un moment.
Voilà, et peut-être.
D'en prendre conscience.
Oui.
C'est ça le...
Tout à fait.
Mmh. Alors, après, ça demande du travail aussi. Le talent. Enfin, moi, un musicien me disait que dire de quelqu'un qu'il avait du talent, c'était insulter son travail. J'aime beaucoup cette phrase. J'aime beaucoup cette phrase.
Oui, c'est pour ça, c'est pas vraiment du travail. Mmh. C'est ce que vous êtes en train de dire, en fait. C'est une sorte de poursuite, c'est une sorte de quête, c'est une sorte d'expérience en continu. Mmh. C'est-à-dire, y a un fil comme ça qui est juste une captation de l'instant qu'il faut s'en saisir, se laisser pousser avec, grandir avec.
C'est la sensibilité que vous décrivez, ma chère.
C'est ça, c'est un peu ça. C'est aussi une attention.
Se combine avec le travail.
Qui se combinerait avec le travail si on devait s'appliquer. Mmh. Alors je trouve que la création telle que moi je l'aborde, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt désapprendre, c'est plutôt repartir à une source d'impromptu, une source d'expérimental, d'un vécu encore que nous n'avons pas vécu. Mmh. C'est pour ça que ça demande beaucoup d'humilité, de disponibilité, et puis de recul, de distance, une forme de distanciation par rapport à ce que l'on est, à ce que l'on croit être, en fait.
Donc vous décrivez aussi une grande liberté, hein, donc il faut de la liberté dans tous les sens du terme, dans l'esprit pour faire ça. Mais ça a l'air de s'imposer tellement à vous que du coup, est-ce vraiment de la liberté ou est-ce que vous êtes esclave de vos propres pulsions créatrices, entre guillemets ?
Ça pourrait, mais c'est pas le cas. Ça pourrait, mais c'est pas le cas parce qu'en fait j'ai l'impression que, je l'ai souvent dit, faire une confiture... recevoir des amis, regarder le travail des autres, les accueillir. Mmh. Tout ça, ça fait partie de la création. C'est-à-dire que c'est tout le temps un émerveillement. C'est jamais cloisonné. On ne peut pas dire que créer, c'est être devant un chevalet ou c'est devant être une sculpture, un volume. Mmh. Créer, c'est chaque instant qu'on réinvente et qui vient à nous. C'est-à-dire que, qui est accueilli, qui doit être accueilli. C'est pas quelque chose de formel, en fait. Mmh. Alors, la liberté là-dedans, c'est peut-être une forme de disponibilité et peut-être une forme de posture de lâcher prise. Alors c'est contradictoire. La posture, c'est quelque chose qui se maintient, mmh. alors que le lâcher prise, c'est quelque chose qui s'abandonne, qui s'offre. Et moi, je trouve que le mot s'offrir à la création, c'est plutôt s'ouvrir aussi à la création. Mmh. C'est quelque chose qui va vers un autre qui est nous, mais qu'on ne connaît pas encore, une aventure. C'est pour ça que c'est très... Oui, comme vous le disiez très bien, c'est... Oui, il y a une forme d'addiction. Quand on est bien, quelque part, on a envie d'y retourner. Mmh. Mais là, on ne peut pas vraiment programmer ce moment. Mmh. C'est lui qui vient nous cueillir. Donc il faut se présenter, attendre, il faut de l'humilité tout simplement, comme un enfant.
Oui, oui, on en parlait ça hors antenne, la comparaison avec l'enfance.
Oui, oui, puis Lydie a cette particularité, dès qu'elle ouvre les yeux, elle voit la beauté des choses, que ce soit dans la nature, autour d'elle, les gens même, elle arrive à percevoir ça. Ce qu'il y a de mieux en eux, et peut-être même les inciter, quand on la connaît un peu plus et qu'on discute avec elle, à franchir le cap, à franchir le pas, parce qu'il n'y a pas de... Alors, on peut dire qu'il y a de bons artistes, de mauvais artistes, mais ça, c'est les diktats commerciaux qui l'imposent. Mmh. C'est autre chose. Après, l'expression artistique, c'est une autre aventure. Mmh. Et je crois que tout le monde peut la vivre, d'une manière ou d'une autre, avec plus ou moins de talent, avec plus ou moins de réussite, et plus ou moins de notoriété, etc. Mais nous avons la chance, ici, dans les Landes, et en particulier dans notre petit coin, entre Tos, en Grèce, Hossegor, et Cap-Breton, et Seignos, nous avons la chance de la voir. C'est une artiste avec une notoriété internationale qui a largement dépassé nos frontières, que ce soit en Europe, aux États-Unis, où elle a exposé... dans la galerie Tétinger avec Francis Bacon, donc c'est pas rien.
Oui.
Donc c'est une chance inouïe, et c'est pour ça que moi personnellement j'y suis très attaché.
Très bien.
Et que je soutiendrai tous les efforts qu'il faut faire pour la faire mieux connaître, y compris sur son terroir où on est souvent moins connu chez soi qu'à l'extérieur.
Oui, c'est vrai. On est là pour ça aujourd'hui.
Absolument, et je vous en remercie.
Moi, ce qui m'intéresse, savoir aussi, Lydie, comment ça s'est passé, cet éveil à la chose artistique. Est-ce qu'il y a eu une... on va parler pas du CV, mais est-ce qu'il y a eu une période d'études dédiée à l'art où vous étiez destiné à autre chose et puis ça s'est imposé, ou alors déjà, comment ça s'est passé ça?
Non, j'ai toujours dessiné depuis toute petite, sur l'ardoise pour commencer, tout le temps toute petite. Mais je pouvais pas imaginer être artiste. Pour moi, c'était vraiment pas possible. On ne m'y aurait pas autorisé. Et donc, j'ai trouvé le biais. J'ai trouvé le biais de que mes parents m'inscrivent dans une école de pub, une école d'art graphique, les SAG à Paris. Donc je suis partie à la capitale. Et j'ai fait ces 4 ans d'études à contre-courant, parce que j'étais absolument nulle en art graphique, nulle en tout ce qu'on me demandait de faire, qui était vraiment extrêmement appliqué et précis. Et donc moi j'étais plutôt brouillon, sale et indisciplinée, et donc ça ne fonctionnait pas. Mais à la fin, j'ai quand même réussi à faire une thèse avec Roman Cislevich, qui est le grand affichiste polonais qui est décédé maintenant, mais qui était extraordinaire, qui comprenait ce que je faisais et qui m'encourageait à ne pas lâcher. Donc j'ai tenu ces 4 ans grâce à lui. On a fait la thèse qui était sur le thème de la comédie, et Roland Topor est venu voir la thèse. Et il a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu as fait là? Comment as-tu pu rester là? Et donc, il m'a présenté une galerie, la galerie Jean Briand, et ça a démarré tout de suite.
D'accord.
J'ai pas vraiment eu le choix. Voilà. Donc j'ai annoncé à mes très gentils parents que je ne prenais pas la voie qui m'avait prédestinée à suivre.
Alors, puisque Lydie parle de ses parents, vous savez qu'elle a écrit 3 livres qui sont magnifiques, et c'est pour ça que nous l'avons invitée au Salon du Livre d'Osgore, et en particulier un qui s'appelle « D'encre et d'encore ». Et dedans, elle parle de sa maman, et elle dit cette chose, c'est l'ouverture du livre, alors donc c'est pour ça que je ne me prive pas de la citer.
Certes.
Elle dit « Encore, je crois que c'est le premier mot qui m'est venu à la bouche. Ma mère me l'avait bien dit, tu n'es pas normale, ma fille. Ah »
Alors, après, il y a une génération aussi, je crois qu'effectivement, si jamais on avait le malheur d'annoncer à ses parents qu'on voulait être artiste, c'était une catastrophe. Quoi, ma fille, tu ne seras pas médecin ou avocat, mais c'est une catastrophe.
Tu n'es pas normale.
Oui, voilà, c'est ça. Hein.
Moi, j'étais vouée à être comptable, mais je ne sais pas compter. Donc.
Mais par chance pour nous, ce n'est pas la direction qui a été prise. Hein. Ça tombe bien, parce que ça aurait été dommage, je crois.
Oui.
Peut-être que des personnes peuvent voir de la poésie ou de la beauté dans les chiffres. Hein.
Sûrement.
Nos amis comptables qui nous écoutent, on ne vous en veut pas personnellement, hein, mais les êtres classiques ont du mal à le percevoir.
Et puis, j'ai connu des mathématiciens qui écrivaient très bien.
Oui.
Ah oui.
Voilà. On en a même récompensé un à Seignos qui s'appelle Jean-Paul Gahuser il y a 3 ans, qui a eu le prix de la nouvelle parce qu'il a fait un texte magnifique. Et donc on peut être à la fois chiffres et lettres.
Ah oui,
voilà.
Ah ben ça, les grands scientifiques que moi j'admire le plus, hein, ce sont les gens qui étaient à la fois des gens de lettres et de sciences, des Newton, des grands chercheurs
de l'époque. Gaston Bachelard, par exemple.
Voilà, il n'y avait pas cette séparation là entre les arts et les lettres, et les lettres et les sciences. C'est complètement ridicule.
Ça continue d'ailleurs. Hein. Ça fonctionne particulièrement bien ensemble, tout ça.
Bien sûr. Ben, c'est déjà le moment de faire notre première pause. Alors là, je vous préviens, les amis, ça va aller très vite parce que, comme vous avez bien compris, ça va être passionnant. Donc, chaque seconde compte. On se retrouve après cette pause. Voilà, c'était Guillot avec le chien de la fille, la version acoustique. Et voilà, un artiste du coin donc, qu'on entend régulièrement ici à cette antenne parce que, voilà, il faut, et puis c'est très chouette. Et puis, si on ne le faisait pas écouter, ben, on n'en tomberait pas dessus.
C'est une belle découverte pour moi.
Ben, voilà,
très bien. Merci.
Très bien, je le dirai. Je le dirai. Alors, retournons à nos moutons, si je puis dire. Alors j'ai dit oui, c'est vrai que j'ai présenté Lydie Arix comme artiste parce qu'avant quand elle est arrivée, j'ai demandé comment est-ce que je dois vous introduire, elle m'a dit artiste. Et en fait, quand on regarde tout ce qu'elle a fait, je parle les médias différents qu'elle a utilisés, c'est difficile effectivement de choisir une définition ou de la mettre dans un conteneur, la pauvre qui la définirait, alors que c'est tout sauf ça.
Elle a trois domaines d'investigation. Il y a la peinture, bien sûr, il y a la sculpture, on le sait. Et puis, il y a également l'écriture, qui est peut-être un peu moins connue, mais c'est une virtuose des mots, vraiment, et de la sensibilité. Donc, moi, je suis très, 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 très heureux de pouvoir la recevoir. Bon, ça fait plusieurs mois que je la fréquente. J'ai appris à l'aimer, tout simplement. Mmh. Je ne vais pas me cacher derrière les mots. À l'aimer pour ce qu'elle est, pour cette... Elle a une capacité d'émerveillement qui est contagieuse. Mmh. Donc, je demande à tout le monde de fréquenter Lydie Arix pour vivre mieux. Ça fait du bien de la voir. Ça fait du bien de l'avoir dans son entourage. Mmh. C'est un plaisir, c'est un bonheur.
Oui.
Donc, c'est une des plus belles rencontres. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Mmh. Je ne me lasserai jamais de le répéter. C'est une des plus belles rencontres que j'ai pu faire depuis que je viens dans la région, c'est-à-dire depuis une vingtaine d'années. Mmh. Donc, voilà. Dans mon hit parade personnel, elle est très haut.
Ouais, très bien, bon, c'était une belle déclaration, je crois qu'on l'a tout entendu. Et oui, qu'est-ce qui vous amène ici d'ailleurs? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné vous êtes installé en Grèce, ici dans la région?
En fait, j'ai grandi dans la région depuis l'âge de 5 ans, donc je connais bien les Landes. Et j'ai toujours adoré cette région pour sa verticalité, son côté mystique, la grande poésie, les grandes étendues de dunes, la mer furieuse. Mmh. Cette nature a presque à apprivoiser chaque instant. Mmh. J'adore ça. Mmh. Et donc, depuis l'âge de 5 ans, je me suis attachée, j'ai grandi dedans, j'ai vécu dedans. Je l'ai peinte, je l'ai ressentie profondément. Mmh. Et quand je suis partie donc, à Paris faire mes études, je suis revenue. J'ai eu besoin de revenir. Mmh. Donc, après 18 ans de vie à Paris, de bitume, j'ai eu besoin de me ressourcer et du coup de retravailler sur des plus grands espaces, sur des grandes fresques.
Oui.
Là, j'ai compris qu'en fait, j'avais besoin de ça.
Oui.
J'avais besoin pas que de l'espace de la nature, mais de l'espace qui était en moi, que j'avais besoin d'explorer en fait. Et du coup, je me suis, avec mon mari Alex, on a commencé à travailler les sculptures monumentales, l'homme qui marche d'ailleurs, qui a mal vécu son exposition au score.
L'homme qui marche est tombé.
Oui.
On pourra en reparler. Si
oui, oui, oui.
Et puis d'autres sculptures en béton. On a découvert le béton et j'ai découvert les fresques. J'ai fait des grandes fresques pour Saint-Émilion, mm-hmm. des grandes sculptures pour la monolithe, des grandes peintures, mm-hmm. et des formats de 4 mètres, et puis des formats de 200 mètres, et puis de plus en plus grands.
Ouh là là là.
Et plus c'est grand, plus il y a de jouissance à mm-hmm. l'imprévu, mm-hmm. en fait. C'est un peu comme un alpiniste, quand il grimpe, plus c'est haut, plus il a une sorte de sensation. Mm-hmm. C'est plus que de la liberté, c'est une forme de renaissance du corps qui s'adapte mm-hmm. à l'infini, voilà, mm-hmm. de conscience de l'infini.
De libération.
De libération, mm-hmm. oui. D'accouchement aussi, de délivrance.
Oui, c'est ça. Ouais. Alors après, c'est vrai que plus c'est monumental, plus c'est grand, plus on, comment dire, le spectateur, hein, il n'est plus dans juste une posture où il regarde, mais il parcourt.
Parfait, c'est exactement ça.
C'est pas du tout la même chose.
C'est exactement ça. Mmh. Vous parlez de ce regard, qui est le regard de l'autre, qui m'importe beaucoup, parce que du coup, le public peut rentrer dans l'œuvre. Mmh. C'est-à-dire qu'il peut, il y a une porte, et il peut se l'approprier. Mmh. Ça devient son œuvre. En fait, voir une peinture, et c'est devient presque l'avoir faite mmh. soi-même. Mmh. C'est ça qui m'importe.
Oui, c'est vrai, ça, cette problématique, là, j'en ai souvent discuté avec tous les artistes, les musiciens et autres, les peintres, etc. C'est qu'une fois qu'on a, accouché de l'œuvre, ben, en fait, nous appartient-elle encore?
Non. Voilà. La réponse est non, et c'est valable aussi pour la littérature.
Oui, voilà.
Bien souvent, on dit que les livres nous échappent une fois qu'ils sont passés chez l'éditeur et qu'ils sont distribués dans les librairies. Et c'est vrai, chacun dans une œuvre met ce qu'il ressent, met avec sa sensibilité ce qu'il cherche finalement, il trouve ce qu'il y cherche dans une œuvre.
Tout à fait.
Et c'est l'interprétation. Et ça nous ramène d'ailleurs à L'Homme qui marche, puisque vous en parliez tout à l'heure, cette sculpture que nous avons exposée à Hossegor, qui a été vandalisée par quelques iconoclastes, je pense, pris de boisson.
Oui.
Et donc, c'est un acte qui est très traumatisant, et pour ceux qui organisent, mais surtout pour l'artiste.
Bien sûr.
Je ne peux pas comprendre que l'on dise bon, ces œuvres ne me plaisent pas, ou etc. La critique est autorisée, c'est sans problème. Mais que l'on détruise, que l'on s'attaque à une œuvre qui est exposée pour des gens qui vivent dans un lieu ou qui s'y rendent pour visiter, je trouve ça purement scandaleux.
Oui.
Et plus que ça, impardonnable. Donc le vandalisme n'est pas tolérable, et ces incivilités qui se répètent dans une ville comme Hossegor, qui est une ville où il y a 4000 habitants, me refroidissent, enfin me glacent. Donc nous ferons tout pour retrouver ceux qui ont participé à cet acte, et nous nous arrangerons pour qu'ils rendent des comptes.
Oui, bien sûr. C'est probablement des gens qui n'ont pas accès à ce que représente l'œuvre. Hein. Comme on dit, le sage montre du doigt et l'idiot regarde le doigt. Et je pense qu'ils ne voient que le doigt, ces
Absolument.
Gens-là.
Ouais.
Si je peux me permettre.
Oui. Je trouve qu'il faut être, franchement, si vous me permettez cette expression un peu triviale, mais il faut être con.
Oui.
Voilà, tout simplement.
On peut l'employer.
Voilà.
Oui, désolé, Lydie, c'est vrai qu'on vous a là, c'est vrai que voilà, c'est ce qui s'est passé récemment. Bon, mais voilà. Vous avez déjà eu une petite mésaventure avec des couillons, parce que moi aussi je peux utiliser le mot, des couillons qui avaient déboulonné une de vos œuvres,
oui,
il me semble.
Oui, deux jeunes qui ont aussi en fin de nuit, qui ont perdu pied avec la réalité et le respect, certainement, la conscience de ce qu'ils faisaient. Mais ce n'est pas que l'artiste qui est visé. C'est surtout tout le monde, parce que quand on donne une œuvre à voir, on la donne à tout le monde, et quand on l'enlève à voir, on l'enlève à tout le monde.
On en prive les gens.
Voilà, et c'est ce droit de participer à une exposition qu'on enlève, non pas qu'à l'artiste, mais au public. Qui est le plus dommageable. Donc il faudrait retrouver le respect, il faudrait retrouver le dialogue aussi, il faudrait comprendre qu'une œuvre, c'est quelque chose de fragile, au même titre que la personne qui l'a faite.
Oui, bien sûr.
Et si on pouvait arriver à sensibiliser le public à ce que l'art contemporain a comme mission sur l'art dans une cité, ce qui est très important parce que le Hossegor ouvre les portes à l'art contemporain. C'est aussi un énorme effort, c'est un défi, parce que ce n'est pas quelque chose de banal. Et il faudrait pouvoir aussi dialoguer encore davantage pour ouvrir le côté initiatique de l'art à ciel ouvert.
Tout à fait. Et voilà, en fait, on a écouté les Poussimiel, un groupe de punkettes qu'on connaît bien dans la région, ils sont venus à cette antenne, etc. Alors c'est amusant parce que Lydie aime ce genre de musique. Et alors ça me donne envie de parler d'un sujet, c'est les matériaux que vous utilisez, parce que vous aimez le métal, la musique.
Oui,
mais
beaucoup, oui.
Voilà, et aussi c'est le matériau, hein, parce que vous utilisez plein de matériaux pour vous exprimer. Est-ce que la musique, ça peut être une source d'inspiration, volontaire ou involontaire d'ailleurs ?
Ah oui, c'est vraiment une source importante de lâcher prise, de se déconnecter pour abandonner, justement, pour s'abandonner au geste. Mm-hmm. Oui, se déplacer en fait. Et la musique métal, les groupes métal me donnent une espèce d'énergie comme ça, physique, organique, qui fait que ça pousse tout de suite, ça pousse.
Ouais, c'est sympa à entendre.
D'ailleurs, si vous allez, je pense que vous allez y aller maintenant que vous connaissez Lydie, mais si vous allez dans sa propriété, là où se trouve son atelier, quand vous arrivez en voiture, donc c'est tout à côté d'Angres, quand vous arrivez en voiture et que vous prenez le chemin, si elle est au travail, vous entendez la musique.
Oui, voilà.
D'abord, c'est ce que vous découvrez.
Voilà, c'est ça. Ah, c'est la question que j'allais poser, justement, au niveau du travail, si vous travaillez en musique, en fait, c'est ça.
Oui, très souvent, très très souvent, mais c'est rare quand je travaille dans le silence, très rare. Oui, c'est quelque chose qui est un élément presque indissociable. Et puis d'ailleurs, ça amorce le geste. Je danse. Il y a une sorte de duo véritablement. C'est assez magique.
Ah oui, fait partie du processus de création.
Tout à fait.
Prend un peu la main comme si c'était une marionnette entre guillemets.
Oui, c'est
donc
vrai.
Il y a une influence de la musique sur le travail que vous exécutez.
Voilà, tout à
en
fait.
D'autres termes.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait. Oui.
C'est une formation intéressante.
Et c'est souvent César qui organise la playlist, ou même qui le fait à l'instinct comme ça, au débeauté, en fonction des mouvements, du rythme de la peinture, et il sent les accélérations nécessaires, il sent les poussées indispensables pour redémarrer. Parce que sur des très grandes fresques comme ça, il y a une espèce d'essoufflement à un moment, et il me relance, et c'est très jubilatoire.
Mais c'est exactement la fonction d'un disc jockey, en fait. Un DJ, c'est ce qu'il fait sur une piste de danse, mais là, en fait, il vous fait la même chose que ce qu'un DJ fait aux gens sur la piste
c'est
de danse,
ça,
en fait.
C'est ça.
Ah, oui,
mais quand on fait des stages de créativité aussi, on utilise le même processus. C'est-à-dire qu'en fait, la musique accompagne le geste de la création, et presque anticipe aussi, c'est-à-dire qu'en fait il y a un vide qui se crée à l'intérieur comme ça, où on oublie tout et où on peut se projeter vraiment assez brutalement je dirais sur la création, sur le lâcher prise.
Alors par contre en termes d'écriture, quand vous écrivez, est-ce que vous utilisez aussi, vous écoutez la musique aussi ou pas?
Non.
Là, c'est pas la même discipline.
Elle écoute une musique, sa musique intérieure.
Oui, bien sûr.
Qui est une autre forme de musique.
Oui, c'est un autre labeur.
Mais qu'elle partage après, effectivement, sur le papier, puisque quand on lit son livre, on retrouve sa propre musique intérieure.
Un rythme, en tout cas.
Et la poésie aussi, parce que ses ouvrages sont très poétiques et très vrais. Et plein de sentiments.
Ça donne
pas dans le mauvais sens du terme, quand je dis pas le sentiment, dans le très bon sens du terme.
Oui, pas dans le côté larmoyant, dans le côté enrichissant.
Non, au contraire.
Bien sûr.
Et puis c'est une façon de voir les choses qui se traduit, tout comme on pourrait contempler un de ces tableaux et en faire des commentaires. On retrouve ça aussi dans les mots. Alors j'ai quand même une habitude de la lecture, mais effectivement il y a des choses qui m'ont arrêté personnellement, puisque j'ai lu les trois livres qu'elle a écrit, c'est plus que des livres, c'est vraiment de la littérature, au vrai sens du terme, et presque de la poésie, pas presque d'ailleurs, c'est de la poésie aussi, dans l'expression des sentiments qui la traversent lorsqu'elle se retrouve devant la nature, en face de gens qu'elle arrive à appréhender, à comprendre. Je crois que c'est ça le secret aussi de la création, et on le retrouve, et c'est donc une artiste à mon sens complète, puisque dans les trois domaines dans lesquels elle s'est exprimée, ben, elle excelle.
Mmh. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a une place pour l'humour dans tout ça? Non, c'est une question que je me pose.
Oui. Moi, je
vois le sourire.
À sa place, je dis oui.
Je vois son sourire, mais voilà, je pose la question directement.
Et la capacité de relativiser aussi.
Mmh. Voilà. Oui, puis la joie. Puis la joie de s'exprimer, la joie de pouvoir laisser passer tout ça, un peu comme quand on un peu comme un tour de prestidigitation, mm-hmm. vous savez, comme les colombes qui sortent des chapeaux.
Oui.
Quelque chose de tellement spontané, oui, le geste de l'enfant qui crée sans se poser de questions, parce que ça sort de lui. Il y a ce côté enfantin aussi, naïf. Mais il y a une sorte de force comme ça, de force presque incontrôlable, mmh. et qui accompagne la joie et de l'humour, oui, souvent sur certains thèmes. Mmh. Oui, il y a de l'humour.
Ouais. Ouais, ça s'entend. Là, je viens de l'entendre. Voilà. Non, voilà, c'est dit. Voilà. C'est... Et aussi, est-ce que la page blanche, ça existe, pas qu'au sens premier du terme, mais est-ce que c'est une chose qui peut titiller, qui peut torturer un petit peu cette page blanche, ou
pas vraiment, c'est une très bonne question, pas vraiment, parce qu'en fait, quand il n'y a rien à dire, je ne dis rien.
Mmh.
Et
c'est très sage.
Ça fait du bien, d'ailleurs.
Merci, oui, merci pour ça.
Bah, d'un autre côté, il y a un proverbe, je ne sais plus si c'est pas Michel Audiard, je ne sais plus qui avait dit ça, mais ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'on doit fermer sa gueule.
Ouais, voilà.
Souvenez-vous de ça.
Ouais. Et oui, donc oui, de toute façon, dans le processus que vous avez l'air de décrire sur l'élan qui vous anime, effectivement, vous n'avez pas besoin de vous dire tiens, je vais faire quelque chose.
Non, il y a pas vraiment d'inspiration en fait. Il y a un moment. Il y a un moment, ça peut prendre n'importe où, n'importe quand. Mm. C'est ça qui est merveilleux, c'est que c'est toujours un paquet surprise à offrir. Et c'est surtout le partage aussi qu'il y a dans cette façon de travailler, qui est quand même très, très, oui, très, très dépendante aussi. Par exemple, quand les gens viennent visiter l'atelier, ça peut m'amener des envies de peindre.
Oui.
C'est leur regard suffit à me porter à la création, parce qu'il y a une richesse dans ce regard, il y a une œuvre dans le regard. Donc je puise un peu à toutes les sources d'énergie, pas que le métal.
Oui, non, bien sûr. C'était trop un point commun, donc je le mets en avant, bien entendu. Même si j'aime beaucoup le bois aussi, il n'y a pas de souci.
Il y a le bois, il y a la terre, le goudron. Enfin,
là, j'ai parlé de la musique.
Oui, je sais. Oui. La musique. Et oui, non, mais
bah aussi, oui.
Je voulais jouer sur le justement sur
la dualité. Il y a de la musique goudron, ça existe aussi.
Ah oui, elle est très chaude et un peu collante.
Voilà.
Il faut éviter de marcher dedans, oui. Effectivement. Oui. Et donc c'est sûr que la page blanche, c'est pas votre credo. On a bien compris. Voilà, c'était nos amis de Moonlight avec une reprise de Painted Black. Eh bien, c'est la dernière partie de notre émission. Donc, mais il nous reste encore des choses à dire, je crois. C'est vrai qu'en ce moment, il y a une exposition. On peut voir les œuvres de Lydie au Segor. On a parlé tout à l'heure des choses malheureuses, mais il reste quand même des choses à voir. Hein. Notamment, c'est Place des Basques où on voit cette chose surprenante qu'on arrive de loin.
Place des Landais.
C'est Place des Landais, oui.
Ouais, ah oui.
Oui. Vous n'avez pas vu les éclairs, mais moi je les ai vus. On sent la dualité traditionnelle est toujours là.
Nos amis les Basques sont les bienvenus à Osogor, bien sûr.
C'est la Gorgone, hein, cette fameuse Gorgone qui est assez imposante. Comment est-ce qu'elle a été réalisée techniquement?
Ah, ça a été un tour de force avec César, notre fils. On travaille donc à trois avec mon mari et notre fils en famille. Et César a trouvé le moyen technique de faire une 3D de la Gorgone, de trouver un atelier de découpe laser pour la réaliser, ce qui a été très compliqué.
C'est la découpe laser, d'accord.
Parce qu'il a fallu souder, ça passait pas dans les découpes, il a fallu faire en plusieurs parties. Et puis, la partie basse, hein, qui est une sorte d'arbre de vie en même temps, on comptait la faire en sculpture en classique, en moulage et en tirage de fonte, mais ça n'a pas marché. Tout le monde refusait de le faire aussi. Et en fait, on est parti sur l'idée de faire une fonte d'aluminium.
Ah oui, c'est moins cassant que la fonte classique.
Oui, mais on l'a fait nous-mêmes, c'est-à-dire que César a acheté un four, de l'aluminium, du sable, et on a fait notre première fonte d'aluminium.
Ah oui.
Donc c'était vraiment une première.
Ah oui, oui.
À 15 jours, 3 semaines de l'exposition, on était vraiment juste dans les temps. Et c'était vraiment très risqué parce qu'on... c'était un geste compliqué pour des gens novices qui n'avaient jamais fait ça. Mmh. Et en fait, ça l'a fait. Donc, on a réussi à aller jusqu'au bout.
Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours cette partie-là. Enfin, moi, je suis toujours un peu curieux de la manière dont les choses sont faites. La cuisine, la chimie, les œuvres d'art. C'est parce qu'il y a quand même une partie très importante. Vous passez du temps à faire des choses avec vos mains, votre tête, et puis avec votre fils et votre mari aussi. Voilà, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. C'est mais comment est-ce que ça a été réalisé? Par quelle technique? Parce que, en fait, vous êtes en permanence en train d'apprendre des techniques. Il faut que vous trouviez la technique qui correspond, qui vous donne la possibilité de donner vie à l'œuvre que vous êtes en train de faire.
Tout à fait. C'est pas si simple. C'est pas si simple parce que il faut trouver la bonne entreprise, il faut trouver la bonne matière, il faut trouver le bon format, et il faut trouver la place aussi, la place des Landais qui était parfaite pour cette gorgone. Et prendre beaucoup de décisions de dernière minute, parce qu'on ne sait jamais. Il était question de la peindre ou de ne pas la peindre. Hein. Elle était très belle en aluminium, mais elle est beaucoup plus belle en couleur corail, puisque c'est un corail.
Oui, c'est ça. Oui.
Et elle accueille bien le coucher de soleil. Elle est parfaite. Là.
Et puis la nature, voilà. Parlons-en de la nature, c'est quand même la source d'inspiration fondamentale pour la plupart d'entre nous, j'imagine. Donc là, on est dans la nature. On parlait tout à l'heure de réseau pulmonaire. La gorgone ressemble vraiment à ce qu'on peut ressortir d'un corps d'être humain, en fait.
Tout à fait. Il y a ces ramifications. Il y a quelque chose d'organique, tout à fait. Et en même temps, il y a cette espèce de respiration. Il y a comme un souffle. C'est ça qui fait la beauté de cette pièce, c'est qu'il y a une forme de légèreté et en même temps une forme d'inspiration. On se sent presque à l'abri à regarder cette sculpture. Elle irradie l'espace. Elle fonctionne avec l'espace.
Ouais, très bien. Et alors, du coup, on comprend bien que vous n'êtes pas seul. Hein. Je ne parle pas juste de votre fils, de votre mari, mais vous avez donc des partenaires, des fonderies, des fournisseurs, etc. Vous avez tout un tas de satellites autour de vous qui vous aident à faire vos œuvres, des rapports privilégiés avec certains d'entre eux, j'imagine.
Tout à fait. Des soudeurs professionnels, des gens qui viennent par amitié aussi nous soutenir, nous aider sur des moments de réalisation finale qu'on maîtrise pas bien. Il faut savoir souder l'aluminium, il faut faire les bâtis du portique gigantesque que la SAREM a fait pour nous. Enfin, c'est quand même une grosse entreprise, la création. C'est pas quelque chose qu'on fait à six mains non plus. Et il faut déléguer, savoir à qui déléguer, faire des choix. Mais c'est magnifique. magnifique de travailler à plusieurs.
Oui, c'est ça, d'autant plus que les œuvres sont monumentales. Donc il faut quand même, effectivement, il y a des intervenants. Mais il faut un leader, une tête.
Ah oui, ben oui.
Et voilà, et elle est devant vous.
C'est ça, oui.
Ouais, on est plusieurs têtes. Trois jaunes dans un œuf.
Ah oui, oui. C'est vrai.
C'est mon expression préférée.
Donc cette expression, d'où vient-elle? On va le dire parce qu'on en a parlé tout à l'heure.
Allez-y. Vas-y. Non, c'est toi qui dis.
Oui, en fait, nous travaillons en famille. Donc je considère qu'en fait, on partage tout, les doutes, les joies, mais aussi c'est cette grande cavale d'expérience qui est sans fin. Qui est sans limite. Et donc, on se demande les uns les autres toujours si on doit aller par-ci, par-là, comment on va y aller. Il n'y a qu'en peinture où je suis le maître de l'imprévu et des défaites et des conquêtes. Mais surtout le reste, sur la sculpture, sur la mise en place des sculptures, sur les grandes décisions qu'il faut prendre au niveau scénographie, au niveau matière, au niveau expérimental, au niveau 3D, nous en parlions tout à l'heure. On est trois.
Alors, le problème, c'est qu'un œuf, c'est un petit contenant, il y a du blanc et du jaune. Donc là, il y a trois jaunes déjà. Pour le futur, et je crois avoir deviné qu'il y en aura bientôt un quatrième jaune dans cet œuf.
Ah oui.
Et donc il n'y aura plus de blanc, je ne sais pas comment elle va se débrouiller.
Il faut prendre un œuf d'autruche.
ou de dinosaure, puisque hier soir, ils ont repassé Jurassic Park. J'ai regardé ça, j'ai vu que les œufs étaient considérables, et que donc, effectivement, il y a de la place. Mais d'accord. Il y a la relève, ce que je voulais dire tout simplement. C'est que la relève était déjà sonnée à la porte.
Très bien. Bon, dans la page Wikipédia, il faudra tâcher de rajouter que vous êtes un œuf d'autruche avec plusieurs jaunes dedans. Mais c'est pas banal. Hein,
je préfère l'œuf du dinosaure. Je préfère la préhistoire.
Ouais, ouais, c'est vrai qu'ils sont devenus des oiseaux. Hein. C'est vrai que ce sont les ancêtres des oiseaux, les dinosaures. Hein.
Mais revisionner ce Jurassic Park, c'est étonnant parce qu'effectivement, les bestioles qui courent partout, elles ressemblent à des poulets, mais des poulets géants. Quoi.
Mmh. Oui, oui.
Donc c'est, effectivement, il y a un rapport avec l'œuvre de Lydie, puisqu'elle travaille aussi dans le monumental, dans le gigantesque. Mmh. Et on retrouve quelque chose de cette préhistoire, voilà. En quelque sorte.
Je ne me permettrai pas de traiter mon invité de dinosaure, en tout cas. Je vais éviter, hein, je me garderai bien, ce serait non, vraiment pas respectueux.
C'est après, ça viendra après.
Oui,
ça.
Plus tard.
Plus tard.
Très bien. Ben, si vous avez une autre actualité à nous dire avant qu'on se sépare...
Oui, moi j'en ai une. C'est le Salon du Livre qui commence demain, 4, 5, 6 juillet. Et vous aurez l'immense plaisir de retrouver Lydie vendredi si, d'aventure, vous avez aimé son propos et si vous aimez son travail.
Bien sûr, et en parcourant la ville...
En tout cas, sa fréquentation est pleine d'enseignements. Mm-hmm. Donc je vous conseille vivement de venir à sa rencontre.
Voilà, et puis en parcourant la ville, vous pourrez voir certaines de ses œuvres. Et voilà,
absolument.
Notamment la Gorgone, ça sera bien de la voir en vrai.
Et tout ça, gratuitement,
voilà.
Donc c'est formidable.
En plus, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup pour ce moment passionnant, parce que on aurait pu y passer 2 heures, franchement.
C'est souhaitable. Oui. Voilà. Donc on reviendra.
Oui, voilà, c'est ça. Bon, on se reverra. We'll be back.
Voilà. À bientôt. Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Très bien. Merci.
Au revoir.
Merci. Bonne journée.